Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
À Paris, vous avez sans doute emprunté le boulevard Sébastopol, pris le métro à la station de Crimée ou traversé le pont d'Alma, sans forcément savoir que ces lieux renvoient à une guerre aujourd'hui presque oubliée, la guerre de Crimée. Cette guerre, l'historiographie l'a longtemps jugée secondaire, sans réel intérêt pour la France. Et pourtant, entre 1853 et 1856, elle a mobilisé toutes les grandes puissances européennes et a coûté des centaines de milliers de vies. Mais surtout, elle a marqué un tournant majeur dans l'histoire des relations internationales parce qu'on a vu émerger de nouvelles pratiques de la diplomatie collective et une manière inédite de penser la paix après la guerre. Aujourd'hui, pour évoquer ce conflit longtemps resté énigmatique, nous recevons Yves Brulet. Bonjour à vous.
Bonjour Marie-Catelin.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire diplomatique et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc vous êtes l'auteur du Que sais-je inédit sur la guerre de Crimée publié en 2025. Guerre de Crimée, donc guerre qui a été pendant longtemps assez mal comprise. Pourquoi ?
Alors en effet, ça nous renvoie à la question de l'articulation entre la mémoire et l'histoire, la mémoire comme perception, et puis l'histoire comme connaissance construite. En réalité, la guerre de Crimée, d'abord au XXe siècle, a été dépassée dans l'horreur par des guerres bien pires qu'elle, par leur durée, par leur ampleur, par le nombre de victimes de destruction. Et du coup, on l'a fini par la relativiser, alors que sur le moment, elle a été ressentie comme une guerre très grave. Mais surtout, il y a une particularité française, c'est que la guerre de Crimée a été un succès de la politique étrangère de Napoléon III. Or, après 1870, toute la Troisième République s'est construite sur l'exécration, le rejet de tout ce qu'avait fait Napoléon III, en particulier sa politique étrangère. Et du coup, cette guerre est passée au second plan. Et par-dessus le marché, à partir des années 1890 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu la politique d'alliance franco-russe, doublée d'ailleurs d'une période d'anglophobie très forte en France à la fin du XIXe siècle. Alors comment parler d'une guerre qui était une alliance entre les Français et les Anglais contre les Russes, et qui en plus avait été menée par Napoléon III. Et donc les histoires qui ont été écrites à ce moment-là, en fait, sont souvent très biaisées, et on explique qu'au fond, Napoléon III avait tort, qu'il s'était fait avoir par les Anglais, qu'il fallait surtout pas faire la guerre aux Russes. Et donc on est resté longtemps sur cette perception très énigmatique et qui a perduré jusqu'aux années 80-90.
Hein, donc en fait, elle a été oubliée par l'historiographie pour des raisons politiques, si on en grande partie,
et puis comme je le dis, parce que au fond, il y a eu d'autres guerres après et que du coup, les enjeux dont on va parler, et qui sont assez complexes, mais qui sont assez graves, sont passés un peu au second plan par rapport à d'autres actualités qui sont arrivées ensuite.
Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, cette guerre, elle dure 3 ans, de 1853 à 1856. Elle oppose plusieurs belligérants européens. Avant de détailler le conflit, est-ce que vous pourriez nous décrire cette Europe, l'Europe des années 1850 ? Quel est le contexte et les tendances politiques, géopolitiques du moment ?
Alors d'abord, peut-être, alors c'est difficile à la radio, mais on va essayer quand même, mais d'imaginer la carte à la fois de l'Europe et de l'Orient. C'est-à-dire que dans la partie orientale de l'Europe, et puis le Proche-Orient et le Moyen-Orient, ce qu'on appelle actuellement ainsi, vous avez deux grands empires qui se font face, donc l'Empire russe, qui est un empire qui couvre à l'époque la Finlande, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine actuelle, et puis ensuite le Caucase, et puis qui va très au-delà, et toute l'Asie centrale. Et puis l'Empire ottoman, qui est encore très considérable, parce que tous les Balkans, sauf la Grèce, mais qui est beaucoup plus petite que celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est indépendante, tous les Balkans sont dans l'Empire ottoman, ce qu'on appelle la Turquie d'Europe à l'époque. La Roumanie est autonome, mais elle est dans le cadre de l'Empire ottoman, bien sûr la Turquie, et puis ensuite tout le Moyen-Orient jusqu'à la frontière de la Perse, et au sud, la mer Rouge, et la moitié de l'Afrique du Nord jusqu'à la Tunisie.
C'est considérable.
Ça, c'est l'Empire ottoman, voilà. Et donc, pour l'Europe, la situation est particulière en ce sens que les grandes puissances, donc qui sont la France, l'Angleterre, l'Autriche, l'Empire d'Autriche à l'époque, la Prusse qui commence à sortir, mais pas, qui reste encore un peu un acteur secondaire, et puis la Russie, tout ce monde européen, ou presque tout ce monde européen, vient de traverser une très grave crise en 1848-49, avec une succession de révolutions, une commotion révolutionnaire, alors qu'on a appelé romantiquement le Printemps des peuples, qui a duré beaucoup plus qu'un printemps et qui a créé beaucoup de troubles. Et les puissances reprennent, disons, une forme de stabilité interne, au début des années 50. Mm-hmm. Et dans ce contexte, Napoléon III arrive au pouvoir, d'abord comme président de la République française élu en décembre 48. Et ensuite, il renverse la République, il rétablit l'Empire, et c'est le début du Second Empire, donc en 1852 ou 53. Donc voilà le contexte général. On sort d'une crise européenne majeure.
Et alors, vous avez décrit cet empire ottoman, empire qui a été très puissant, mais dans ces années 1850, il apparaît en déclin. On l'appelle même l'homme malade de l'Europe. La première fois qu'on a utilisé cette expression homme malade de l'Europe, c'est dans ce contexte-là. C'est pour désigner l'empire ottoman qui apparaît plus faible qu'avant.
Tout à fait. Donc c'est un des thèmes de tout le 19e siècle, hein, c'est le déclin de l'Empire ottoman. La question, c'est est-ce qu'il faut le maintenir en vie et le réformer? Ça, c'est la ligne de la politique française. Hein. Maintenant, l'Empire ottoman, en le réformant de l'intérieur et en prévoyant la suite, mais le plus tard possible, et c'est la ligne aussi de l'Angleterre. Et puis, il y a la ligne de la Russie qui est de profiter de l'affaiblissement de l'Empire ottoman pour essayer de le placer dans sa zone d'influence, quasiment sous sa tutelle. Et en fait, toute la véritable cause de la guerre de Crimée est là. Et un jour, à Saint-Pétersbourg, en janvier 1853, le tsar Nicolas Ier, hein, donc qui est tsar de toutes les Russies depuis 1825, prend à part dans une cérémonie l'ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg et lui dit « Nous avons un homme malade, c'est donc l'Empire ottoman » et il lui propose à ce moment-là un partage de l'Empire ottoman entre la Russie et l'Angleterre, mais entre la Russie et l'Angleterre seulement. C'est-à-dire que les autres grandes puissances n'auraient pas été associées à ce partage.
Alors, et que dit l'Angleterre,
et justement, à la grande surprise du tsar, l'Angleterre refuse. Et c'est le premier indice d'un élément essentiel de cette guerre, c'est que la Russie avait tout parié sur la division des Occidentaux, pensant que jamais les Français de Napoléon III et les Britanniques ne arriveraient à s'allier et que les autres jamais ne se réuniraient à ces deux grandes puissances. Et en fait, il a perdu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, les Occidentaux sont restés unis face à cette politique russe qui, d'ailleurs, n'est pas propre au XIXe siècle.
Il faut bien faire la différence entre les objectifs officiels de cet empire russe, ce qui va affirmer publiquement, et puis ses objectifs officieux, ses intérêts réels, stratégiques. Officiellement, qu'est-ce qu'il dit cet empire russe concernant l'empire ottoman ?
Alors, la ligne que choisit le tsar, c'est l'argument religieux. C'est qu'il y a dans les populations de l'Empire ottoman beaucoup de chrétiens. Comme je vous le disais, les Balkans sont encore sous la souveraineté du sultan. Et puis, il y a aussi des minorités chrétiennes au Proche-Orient assez importantes. Et donc, l'idée, c'est de dire que ces populations chrétiennes sont menacées dans cet empire musulman. Et donc, c'est à la Russie, et c'est là tout le problème, c'est à la Russie seule d'être la protectrice de ces populations chrétiennes. Et pour les protéger, la Russie veut obtenir du sultan, donc des Turcs, mais un traité bilatéral, c'est le mot le plus important, un traité bilatéral, évidemment à l'avantage des Russes, qui sont beaucoup plus forts à l'époque que les Turcs, leur permettant, eux, aux Russes, d'être les protecteurs attitrés des populations chrétiennes. Mais si les Turcs sont contraints à signer un pareil traité, en fait, ils tombent complètement sous la tutelle de la Russie, qui pourra intervenir quotidiennement dans la gouvernance, dans l'administration de l'Empire ottoman. C'est ça que veut, avec un argument officiel, mais avec une intention stratégique, évidemment, qui n'échappe à personne, c'est ça que veut le tsar. Et c'est justement contre ça que les autres se dressent.
Ce sujet religieux de protection des chrétiens de l'Empire ottoman, c'est vraiment juste un prétexte pour l'Empire russe. Son objectif réel, quel est cet objectif réel?
Eh bien, justement, c'est de mettre l'ensemble, non pas de manger, disons, entre guillemets, hein, pardon pour cette expression triviale, mais une partie de l'Empire ottoman, c'est de placer l'ensemble sous sa tutelle. Mais justement, la question des chrétiens revient constamment à l'époque, mais les grandes puissances de l'époque, elles sont toutes chrétiennes. Elles ne se désintéressent évidemment pas des populations chrétiennes. Et l'un des enjeux, ça sera de faire reconnaître que cette question des chrétiens de l'Empire ottoman, comme l'ensemble de la question d'Orient, est en fait une question d'intérêt général qui ne concerne pas seulement les Russes, mais l'ensemble des grandes puissances. Et c'est ça tout l'enjeu de la guerre de Crimée.
Alors, vous l'avez dit, le véritable enjeu, c'est d'affaiblir l'Empire ottoman et puis prendre l'accès aussi à certaines mers de la part de l'Empire russe qui convoitent notamment l'accès à la mer Noire. voire même la mer Méditerranée. Et puis, une autre zone territoriale stratégique, la Crimée. La Crimée, où est-ce que se situe ce territoire précisément ?
Alors la Crimée donc, est une péninsule qui est donc, au nord de la mer Noire. En fait, l'enjeu de la guerre de Crimée n'est pas la Crimée. C'est-à-dire que c'est sur le territoire de la Crimée que la plus grande partie de la guerre, mais pas toute la guerre d'ailleurs, va se dérouler. Et du coup, on l'a appelée la guerre de Crimée au moment où les armées se sont déplacées en Crimée pour s'y battre, si vous voulez. Mais au départ, ça ne se passe pas là. L'enjeu va très au-delà, en fait, du territoire de la Crimée. C'est pour ça que j'avais proposé, mais c'est une manière de dire les choses, dans mon livre, qu'au fond, cette guerre aurait pu s'appeler la guerre de la mer Noire, et non pas la guerre de la Crimée, parce que le véritable enjeu stratégique, c'est le sort de la mer Noire, c'est-à-dire cette mer entre l'Empire russe et l'Empire ottoman, qui, jusqu'à la guerre de Crimée, met l'Empire ottoman à la merci de la flotte de guerre russe, qui est à Sébastopol, justement, en Crimée, et qui, après la guerre de Crimée, sera une barrière stratégique, puisque la mer Noire sera déclarée neutre, c'est-à-dire avec interdiction des flottes de guerre à la fin de la guerre de Crimée. Donc, voilà, la Crimée n'est pas l'enjeu, mais c'est plutôt le terrain sur lequel les armées se sont le plus battues pendant cette guerre.
Donc, un conflit qui oppose, en premier lieu, les Russes avec l'Empire ottoman. Comment la France, elle se retrouve impliquée dans cette guerre ? Il n'y a pas que la France, il y a aussi le Royaume-Uni. Comment ils en viennent à s'engager ?
Parce que la France est une grande puissance et que si l'Empire russe met dans sa zone d'influence le pouvoir de l'Empire ottoman, c'est l'ensemble de l'équilibre international qui est modifié. Et donc la mission de, non seulement de la France, qui a aussi ses propres intérêts en Orient, d'ailleurs, c'est pas que l'Angleterre, mais l'Angleterre et aussi l'Autriche, après tout, s'il y a un déséquilibre majeur entre les grandes puissances qui intervient, c'est tout le système international qui est mis en cause. Et donc c'est à ce titre, et pas seulement au titre de ses propres intérêts en Orient qui peuvent exister, que la France est d'emblée impliquée. Et en plus, les détroits, donc évidemment les détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui sont un point stratégique majeur, ils sont réglés par une convention internationale qui avait été conclue en 1841 et dont la France est signataire. Donc de toute façon, si les choses changent, et avec l'Angleterre bien sûr, si les choses changent à cet endroit, la France est partie prenante, au titre du fait qu'elle fait partie des cinq grandes puissances du Conseil européen.
Elle devait y aller, elle avait tout intérêt à y aller. Est-ce qu'elle veut y aller ? Elle veut s'engager ? Elle met du temps, la France, s'engager officiellement dans le conflit ?
Il y a l'aspect politique et l'aspect militaire. Au début, il faut reconnaître que la France a été en pointe pour tenir tête aux Russes et soutenir politiquement les Turcs en disant non, ne cédez pas parce que c'est un changement majeur de l'équilibre international. Et les Anglais, d'ailleurs, au début plus hésitants, ensuite se sont raffermis. Les Français, donc, ont été plutôt à la pointe au début, mais il faut reconnaître à Napoléon III et à sa diplomatie que pendant des mois, en réalité, ils ont cherché une porte de sortie diplomatique, de faire une conférence, de faire des négociations. Il y a eu constamment des négociations, en réalité, et à chaque fois, ça n'a pas abouti. Et quand on regarde le détail, le plus souvent, c'est parce qu'il y avait une espèce de jusqu'au-boutisme
russe
qui espérait qu'à un moment donné, les alliés occidentaux se diviseraient. Donc, la partie militaire n'est venue que dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le face-à-face diplomatique entre, disons, l'Europe qui soutient l'Empire turc et la Russie de l'autre côté, il dure de 1853 jusqu'au début de 1854. Et c'est à ce moment-là, après avoir épuisé un peu toutes les formules possibles de négociation, que la France et l'Angleterre entrent véritablement en guerre pour éviter la disparition de l'Empire ottoman.
Mais elle voulait éviter le conflit à tout prix, en premier lieu.
Oui, alors c'est une question intéressante parce que beaucoup d'opposants à Napoléon III, d'ailleurs surtout après le Second Empire, ont dit que, mais pas seulement d'ailleurs, que c'était une guerre qui avait été inventée par Napoléon III pour faire oublier le coup d'État du 2 décembre et le régime autoritaire. Alors c'est vrai que le début du Second Empire, c'est un régime autoritaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, quand on regarde les choses de près, ça ne résiste pas véritablement à la connaissance historique qu'on en a. Et clairement, Napoléon III n'avait pas tant intérêt que ça de faire la guerre. Au contraire, son intérêt principal, c'était de stabiliser son régime, de faire des affaires, donc de l'économie. Et donc la guerre, ça joue en général plutôt dans un sens contraire. Et donc c'est vraiment parce qu'il n'a pas pu faire autrement, au fond, qu'il a impliqué l'armée, sans savoir combien de temps ça durerait non plus, d'ailleurs.
Oui, vous l'avez dit, ce sont vraiment les Russes, l'Empire russe qui a tout mis en œuvre pour que le conflit soit inévitable.
Oui, et puis quand il a commencé, les Russes qui étaient entrés dans le territoire ottoman en 1853 ont été bloqués. Et ils ont dû reculer en 1854. Mais à ce moment-là, les choses auraient pu s'arrêter, sauf qu'en fait, elles ne se sont pas arrêtées. Et donc, c'est pour prendre un gage, en quelque sorte, et forcer les Russes à négocier et à revenir à la table des négociations, que l'armée française et l'armée anglaise, qui étaient d'abord sur les territoires de l'actuelle Bulgarie, de l'actuelle Roumanie, en fait, se sont déplacés et ont débarqué en Crimée pour s'emparer de Sébastopol comme un gage et forcer les Russes à négocier. Mmh. Voilà, sauf que le siège de Sébastopol, il a duré une année complète, et ça, évidemment, ce n'était pas ce qu'ils espéraient.
L'événement qui déclenche officiellement la guerre, le conflit, en 1853, est-ce qu'il y a un événement précis?
Bien sûr, oui. Donc l'armée de l'Empire russe franchit la frontière, en fait, et entre dans l'Empire ottoman et envahit les régions qui sont aujourd'hui la Roumanie, c'est-à-dire la Moldavie, enfin la Moldavie roumaine, hein, distincte de la République de Moldavie actuelle, après je précise, et puis la Valachie. Donc au début, ils avancent, voilà. Ils ont fini par être stoppés. Les Occidentaux ont envoyé les flottes de guerre ensuite dans la mer Noire pour faire pression, hein, dans l'idée qu'il fallait que les Russes n'aillent pas plus loin. Et c'est ensuite qu'ils ont repris du terrain et repoussé les Russes au-delà. Et puis, dans une deuxième phase, donc, comme je l'ai dit, se déplacent en Crimée proprement dite.
Mmh. Ce que vous soulignez dans cet ouvrage, le que sais-je, c'est que c'est, on dit que c'est la toute première guerre moderne ou contemporaine de l'histoire. Qu'est-ce qui va trancher avec les guerres précédentes? Vous avez parlé de, alors, des moyens de transport, il y a de l'armement aussi, tout ça réuni?
Oui, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects modernes, disons nouveaux. L'idée de la modernité peut se discuter, hein, mais nouveaux. Et puis, il y a des aspects, au contraire, un peu archaïques. Donc, il y a vraiment d'un côté et de l'autre. Les aspects modernes, bien sûr, c'est les armements. D'abord, il n'y a pas eu beaucoup de guerres depuis l'époque napoléonienne. Hein, donc, il y a eu des guerres coloniales, bien sûr. Il y a eu l'Algérie, etc. Mais ce sont des cas particuliers. Il n'y a pas eu de guerre de cette importance en Europe. Hein, bon. Et donc là, c'est la première fois qu'on va utiliser certains types de fusils, certains types de canons. Donc, il y a une modernisation en cours de l'armement. La marine à vapeur est très récente. Alors, il n'y a pas encore les cuirassés, mais il y a la marine à vapeur, hein, les vaisseaux et les frégates, qui accélèrent, bien sûr, et qui sécurisent les mouvements. Ça, c'est très nouveau. Mais il y a d'autres aspects. Le télégraphe, par exemple.
Alors,
et ça se développe à toute vitesse dans les années 1850. Et l'état-major sur place, qui au départ reçoit des instructions qui arrivent très lentement, hein, jusque sur le terrain des opérations, le télégraphe finit par arriver jusqu'en mer Noire. Et là, Napoléon III et son ministre peuvent se donner des ordres à leurs généraux quasiment en temps direct.
Réel,
et,
ouais.
Et je ne suis pas sûr que cela ait tellement convenu aux officiers généraux sur place qui préféraient souvent juger les choses sur place et non pas suivre. D'ailleurs, certains ont désobéi clairement aux ordres reçus. Bon. Donc, le télégraphe accélère. Mais il y a d'autres aspects. C'est la grande époque du développement de la presse. Et c'est la première guerre où il y a eu des correspondants de presse, hein, des journalistes qui ont rendu compte, et même des photographies. On ne prenait pas en photo la bataille. Mais on prenait en photo les paysages, les équipements, les soldats, les généraux, enfin un certain nombre de choses pour donner de l'image. Mm-hmm. Voilà, mais on ne montrait pas encore la bataille proprement dite, sauf que c'était quand même très, très nouveau.
Et puis, il y a aussi une politique volontariste du ministère des Affaires étrangères pour diffuser des informations aux journalistes qui couvrent le conflit. Ça, c'est nouveau.
Oui, et c'est nouveau d'ailleurs de le dire, je dois dire, parce que c'est dans mes recherches, hein, sur le ministère des Affaires étrangères que j'ai trouvé des éléments là-dessus. Hein. Et ça, c'est très moderne aussi. C'était que dans les années 1850, le ministère des Affaires étrangères transmettait à un certain nombre de journalistes des informations, des dépêches diplomatiques, alors un peu sous le manteau, mais pas complètement, vous voyez, pour donner des informations, donner du contenu. Et puis, le ministre recevait dans son bureau des grands journalistes pour leur expliquer ce qui se passait en Orient, les négociations en cours, etc. Et donc ça, c'est très nouveau parce qu'on a compris qu'il fallait associer aussi l'opinion publique.
Et l'opinion réagit, elle se sent, elle suit cette guerre.
Alors l'opinion suit cette guerre, voit bien aussi qu'il y a beaucoup de pertes, mais elle y adhère. On le voit quand il y a des emprunts qui sont lancés, par exemple, ils sont souscrits extrêmement rapidement. Bon. Et puis, un élément de l'opinion publique qui est intéressant, c'est que comme on fait la guerre aux côtés des Anglais, ce qui est assez nouveau, il y a une anglophobie qui a existé à cette époque-là, en fait, qui a beaucoup diminué. Il y a une espèce de réconciliation entre deux. Mais il y a un aspect, par contre, qui est important à souligner, c'est que c'est une guerre que j'appellerais pré-nationaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haine nationaliste des Français contre les Russes. Il y a une forme de méfiance, parce que c'est un pays autocratique, lointain, et puis il y a les mauvais souvenirs des guerres napoléoniennes, hein, bien entendu. Mais il n'y a pas de haine nationaliste, comme il y en aura ensuite entre la France et l'Allemagne, par exemple.
70,
voyez. Et donc là, on est dans une période d'avant. Bon, et puis on disait, donc, il y a des aspects modernes et des aspects plus archaïques, et le problème le plus archaïque, c'est surtout la gestion des questions de santé, enfin de l'hygiène, etc. Et en réalité, ça a été un désastre sanitaire, avec entre 75 et 80% des soldats qui sont morts dans la guerre de Crimée, en fait, sont morts de maladies.
Et non le pas choléra, je crois, qui a
le
pas mal
choléra,
circulé.
Le scorbut, le typhus, la dysenterie. Et tout cela est très mal géré. Hein. Alors, c'est le début, alors, du côté anglais, de l'action de Florence Nightingale, par exemple, avec les infirmières. Donc là, il y a une prise de conscience qui s'opère. Mais ça a été un désastre sanitaire. Mmh. Et donc là, les choses vont s'améliorer, autant qu'elles peuvent être améliorées. Après, voilà, ça, c'est le côté un peu moins moderne que les autres aspects, disons.
Non, c'est un vrai désastre. Les pertes humaines sont dramatiques. Je reviens au conflit très vite. On l'a compris, la Russie s'est retrouvée isolée diplomatiquement. Quel est l'événement qui constitue le coup de grâce pour la Russie qui va achever la guerre? Je crois que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure avec la bataille de Sébastopol.
Oui, c'est-à-dire que le siège de Sébastopol, qui est la grande ville avec un port militaire, hein, et qui est une menace que les Russes avaient vis-à-vis de l'ensemble de la mer Noire et la Turquie en particulier. Ce siège, en fait, va durer un an, ce qui est considérable. C'est un siège qui a été très dur, en commençant septembre 54 et se termine donc le 8 septembre 1855, avec beaucoup de pertes. Et à ce moment-là, alors c'est pas le coup de grâce, mais c'est une défaite qui change la donne. Voilà. Mmh. Le tsar a longtemps espéré que ça tiendrait, et puis finalement, les alliés, donc français, anglais, et puis piémontais, faut pas l'oublier, il y a des Italiens aussi, hein, et des Turcs, qui combattent, finissent par l'emporter. Hein, donc c'est le moment essentiel, c'est le 8 septembre 1855, avec la prise du fort de Malakoff. En fait, c'est l'élément principal de la muraille, enfin, et qui permettait ensuite de prendre possession de l'ensemble de la ville. Et du moment que ce fort de Malakoff a été pris, en fait, les Russes ont vu qu'ils ne pouvaient plus sauvegarder la ville et ont décidé de la quitter, et donc sont sortis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient, dans leur esprit, forcément perdu la guerre. Mmh. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu cette bataille essentielle, mais on n'était pas sûr que ce serait tout de suite la paix. Et certains, d'ailleurs, pensaient qu'on pouvait programmer, les Anglais, par exemple, voulaient faire une deuxième campagne l'année suivante, en 1856, après l'hiver, en mer Baltique, par exemple, pour de nouveau faire pression autrement. Et donc, tout l'enjeu de l'automne 55 et du début de l'hiver 56, c'est de savoir si on s'arrête là, ce qui était la ligne de Napoléon III, en disant « ça nous suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin », et donc on fait un congrès diplomatique, ou bien il y aura encore une année de guerre.
Cette Russie, elle a pendant longtemps ignoré toute tentative de paix. On ne peut pas s'empêcher de penser à la situation actuelle, l'attitude très virulente de la Russie aujourd'hui. Cette volonté d'expansion, elle a toujours été présente en Russie.
Alors, je ne peux pas donner une réponse globale, mais c'est vrai qu'il y a des parallèles. Je ne les fais pas de manière explicite dans mon livre. Hein. J'ai considéré que le lecteur était assez intelligent pour voir les parallèles. D'abord, l'idée de parier sur la division des Occidentaux, ça c'est très clair. Sauf qu'à l'époque du tsar Nicolas Ier, eh bien ça n'est pas arrivé justement. Alors, c'est en train d'arriver aujourd'hui, mais c'est un autre monde. L'idée aussi d'un autocrate qui est dans une forme d'infatuation, c'est-à-dire qu'il est sûr qu'il va gagner en fait. Hein. Et puis, à mon avis, le point principal, hein, c'est que l'enjeu à l'époque comme aujourd'hui, c'est la nature du système international. Est-ce qu'on est dans un système avec une diplomatie multilatérale, un droit international, un équilibre des puissances? Ou est-ce qu'on est dans un système où il y a justement de moins possible de diplomatie multilatérale, un droit international qui est piétiné tous les jours, et une volonté expansionniste des empires? Et donc la réponse au XIXe siècle, dans les années 1850, ça a été le congrès de Paris de 1856. Et la réponse d'aujourd'hui, je précise que nous enregistrons cette émission en janvier 2026. Nous ne l'avons pas, mais malheureusement, nous commençons à la deviner.
Parce qu'effectivement, dans l'édition du Que sais-je, vous insistez beaucoup sur l'après-conflit. Et c'est peut-être même le point qui vous intéresse le plus, parce qu'en fait, ce congrès de Paris dont vous venez de parler, qui vient conclure la guerre, c'est véritablement un exemple de diplomatie collective, multilatérale, les nations parviennent à maintenir un système international.
Oui, c'était l'enjeu de la guerre, et effectivement, cela aboutit à imposer le principe d'une gestion collective des problèmes de l'Orient. Quand il y aura une crise en Orient, eh bien, il y aura, et c'est dans le traité, hein, obligation d'une médiation, d'abord européenne, entre des belligérants ou une crise majeure. Il y aurait obligation à négocier chaque évolution de l'Empire ottoman qui pourrait avoir lieu, et c'est donc un engagement que chacun prend, de respecter l'intégrité de l'Empire ottoman, hein, et de participer à cette gestion collective. Alors, ce qui est intéressant dans ce traité de Paris, c'est non seulement ça, mais aussi la manière dont ça s'est passé, en fait. Hein. Et je trouve que c'est un congrès qui est trop méconnu et qui est en fait très intéressant. D'abord, ça se passait au Quai d'Orsay, qui était tout neuf. À l'époque, il venait d'être construit, il venait d'être fini. Donc, c'est le début de la grande histoire du Quai d'Orsay. Mais c'est la première fois qu'on faisait un congrès un peu rationalisé. Chaque pays représenté avait deux plénipotentiaires, pas trois, quatre ou un, on avait deux. Il y avait des séances du congrès lui-même, avec un protocole, et puis des
un vrai balai diplomatique qui dure des semaines et des semaines.
Des groupes de travail, mais finalement pas si longtemps que ça. On s'est donné 5 semaines pour conclure et on a réussi.
Okay.
Avec le télégraphe, les plénipotentiaires peuvent interroger leur souverain et avoir la réponse assez vite. Donc, les questions se sont tranchées au fur et à mesure. Donc, c'est devenu un modèle de fonctionnement d'une diplomatie multilatérale moderne. Et je trouve que c'est intéressant.
Et ce que vous soulignez aussi dans le livre, c'est que à ce congrès sont présents les vainqueurs et puis aussi les vaincus qui participent.
Oui, tout à fait. Alors, exactement. Les Russes sont vaincus, ont accepté donc un ultimatum, ont accepté la réunion d'un congrès, mais ils participent au congrès dès le premier jour. Et au fond, on rediscute avec eux absolument comme des participants normaux et comme les autres. Et donc, à cet égard, le congrès de Paris de 1856, c'est un peu l'anti-modèle, si on veut, de la conférence de la paix de 1919, après la Première Guerre mondiale, qui se passe exactement au même endroit, en fait. Alors, qui est évidemment un monument, c'est beaucoup plus considérable, il y a beaucoup plus d'enjeux, il faut réinventer toute l'Europe. Mais la différence, c'est que en 1856, les vaincus sont associés tout de suite, alors qu'en 1919,
les
vainqueurs font la paix, et quand c'est terminé, on convoque les Allemands, on leur dit, voilà, c'est ça qu'il faut signer. Hein, donc, la grande différence, elle est là. C'est parce que l'idée était de refonder, hein, de consolider ce qu'on a appelé le concert européen, hein, non seulement pour régler les problèmes du présent, mais aussi comme une machine diplomatique capable d'absorber et de gérer et de réguler les questions qui surviendront en Orient plus tard, et forcément, il y en aura toujours.
En fait, ce congrès, il donne une vraie ampleur à la diplomatie multilatérale. Mais comme vous le disiez, il est assez méconnu dans l'histoire des congrès. On connaît bien mieux le congrès de Westphalie, le congrès de Vienne qui ont eu lieu avant. Et pourtant, ce congrès, il porte un héritage. On a véritablement fait un grand progrès dans le droit international. Ça, c'est aussi l'une des choses qu'on peut retenir de ce congrès de Paris.
Dans l'obligation des médiations, dans la possibilité des bons offices quand il y a une crise internationale, dans la définition d'un droit maritime moderne en temps de guerre, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui avancent, hein, de ce point de vue-là. Alors, ça a joué dans l'oubli relatif. Alors, les juristes ne l'ont jamais complètement oublié, hein, mais plus les historiens, c'est que c'était un grand succès du Second Empire. Et évidemment, au milieu du congrès, hein, le congrès commence fin février et se termine mi-avril, hein, au milieu du mois de mars, naît le prince impérial, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Et donc, ça consolide considérablement la dynastie au moment où Napoléon III est devenu une sorte de pivot du système international, quelques années à peine après son avènement. Donc là, on a l'impression d'un apogée qui, après, a été plutôt relativisé, et surtout, évidemment, après la défaite de la France en 1870.
La France ressort de ce congrès triomphante. Et puis, comme on l'a déjà dit, c'est le triomphe d'un ordre diplomatique qui fonctionne, qu'on respecte. La diplomatie collective en ressort beaucoup plus forte. Et on est bien loin de la diplomatie d'aujourd'hui qui apparaît très, très affaiblie. Au fond, ce livre, et ce sera ma dernière question, c'est peut-être aussi un plaidoyer pour le retour de la diplomatie et de la négociation collective.
Alors, je ne sais pas, moi je ne suis qu'un historien, hein, je ne suis pas un diplomate. Mais oui, bien entendu, hein, il y a l'idée que ça dépend si on veut avoir la paix ou si on veut avoir la guerre. Hein, mais si on veut avoir la paix, les outils existent. Ils sont dans cette diplomatie multilatérale et dans le respect du droit international et dans l'équilibre aussi des puissances. Mais j'ai voulu surtout faire ressortir de l'oubli cet épisode, au fond, y compris dans ses aspects diplomatiques, parce qu'au fond, l'histoire militaire et l'histoire diplomatique sont les deux versants, on peut dire, d'une même montagne. Il faut voir l'ensemble comme une réalité de relations internationales. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné beaucoup d'importance aux aspects diplomatiques dans ce « Que sais-je ».
Bah merci beaucoup Yves Roulet. J'invite effectivement les auditeurs à se le procurer, ce « Que sais-je » sur la guerre de Crimée, que vous avez écrit. C'est un inédit, il a été publié en 2025. Et puis, je crois que vous avez aussi d'autres actualités éditoriales en ce moment.
Alors, effectivement, parallèlement, viennent de paraître les souvenirs du Quai d'Orsay d'un diplomate de cette époque-là, qui s'appelait Hippolyte Després.
Dont vous parlez d'ailleurs dans « Que sais-je ».
Et donc, je cite des passages qui étaient inédits au moment où j'ai écrit le « Que sais-je » et qui ne le sont plus, puisque aujourd'hui, le public peut avoir accès à ces souvenirs du Quai d'Orsay, les mémoires d'un diplomate qui étaient restés dans les cartons des archives et que donc, je viens d'éditer avec la direction des archives diplomatiques au ministère des Affaires étrangères.
Et bien, nous mettrons le lien qui renvoie à la librairie de l'Institut qui propose ce livre. Merci beaucoup.
Les podcasts de l'Institut de France.